OK, en attente du point de presse de François Legault, Julie-Christine Gagnon nous rejoint. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
D'abord, commençons par le bilan, tiens, okay. Julie-Christine.
Oui, hein? Parce qu'on a décidé de le sortir avant la conférence de presse. Donc, le Québec enregistre 89 nouveaux décès, ce qui porte le total à 4228 morts dans la province depuis le début de cette pandémie. Il y a maintenant 49139 cas confirmés. C'est une augmentation de 541. Le nombre de personnes hospitalisées est en baisse depuis hier, c'est une bonne nouvelle, donc une baisse de 24 pour un total de 1378 hospitalisations, dont 184 personnes qui sont aux soins intensifs. Ça, c'est une hausse de 3.
OK, très bien. François Legault a tweeté, comme c'est son habitude, avant de faire le point de presse.
Oui, et son tweet n'est pas surprenant. On a besoin de plus de personnel dans nos CHSLD. Pour ceux qui peuvent aider, on peut vous offrir un travail bien payé et très enrichissant au plan humain. Je vous invite à y penser très sérieusement.
Oui, on sait que c'est... à l'approche de l'été, puis avec les chaleurs qu'on vit présentement, là...
Ils ont besoin de renforts, les gens qui travaillent depuis le début ont besoin d'être remplacés, d'avoir des vacances.
Ouais. Mais ce que je retiens aussi, Julie-Christine, parce qu'on a fait plusieurs entrevues dans cette émission, on a évidemment parlé des gros problèmes qu'on a vécu, mais le nombre de personnes aussi qui nous disent qu'elles se sont portées volontaires puis qu'elles en ont retiré énormément. Là. Tu sais que hier, j'avais notamment une dame qui travaillait chez Desjardins, puis qu'elle a tellement trouvé sa vocation. Là, elle a dit, moi, là, c'est ça ma vie. Là, je veux vraiment devenir préposé aux bénéficiaires.
Oui.
Puis, tu sais, donc, c'est pas juste de la misère, c'est pas juste une épreuve aller travailler dans un CHSLD. Tu peux vraiment trouver la vocation de ta vie professionnelle. Là.
Ah, t'as complètement raison. Puis des fois, on a l'impression qu'il faut aller ailleurs pour
se réaliser.
Voilà. Ouais. Moi, j'ai en tête des témoignages, entre autres, des forces armées, là, des militaires qui ont dit, vraiment, moi, ça m'a transformé pour le reste de ma vie.
Oui. C'est vrai. C'est absolument vrai. Bon, parlons de celles qui travaillent, notamment dans les CHSLD, les infirmières qui manifestent.
Oui, manifestent depuis 11 heures ce matin sous le thème « Morte de fatigue ». Alors, plusieurs manifestations devant des hôpitaux, devant des CHSLD. Les employés en santé, en soins, réclament des milieux plus sécuritaires, du répit, une rémunération à la hauteur des risques. Bref, on le sait. Elles veulent surtout être certaines de pouvoir se reposer puis avoir des vacances.
Monsieur le Premier ministre, à vous la parole.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par une entreprise de Québec qui s'appelle Sur Mesure et qui a fait une cravate aussi. Aux couleurs de l'arc-en-ciel, de l'espoir, là, ça va bien aller. Donc, encourageons nos artisans québécois qui fabriquent des masques et puis portons le masque. Pour faire un peu différent, on a commencé depuis ce matin à publier les chiffres sur le bilan. Donc, je vous répéterai pas tous les chiffres que vous avez déjà. Je vais passer plutôt à... certains commentaires sur la situation en général. Bon, évidemment, la situation reste difficile dans les CHSLD. Il continue d'y avoir beaucoup de décès. Le nombre de personnes qui est infectée diminue, mais la situation reste difficile du côté du personnel. Je veux vous rappeler un petit peu la séquence dans les CHSLD. Depuis plusieurs années, il manquait à peu près 10 000 employés dans les CHSLD pour avoir ce que j'appellerais des ratios raisonnables. Donc, quand on est arrivé au gouvernement, il y a un an et demi, on a augmenté le budget, mais malheureusement, on n'a pas réussi à combler les postes. Donc, on a affiché les postes, mais on ne les a pas comblés. Notre objectif, c'était éventuellement, durant la négociation de la convention collective, qui a commencé, dans le fond, même si ce n'est pas signé, le 1er avril 2020, de rehausser de façon importante le salaire, entre autres, des préposés aux bénéficiaires pour être capable, justement, de combler ces 10 000 postes. Et puis, je l'ai déjà dit, je le répète, s'il y a une erreur qu'on a faite durant cette année et demie, c'est qu'on aurait dû, en même temps qu'on a augmenté les budgets des CHSLD, aurait fallu aussi augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires pour que les budgets soient dépensés, parce qu'on s'est retrouvé dans une drôle de situation où il y a des centaines de millions de dollars qui avaient été prévus au budget qui n'ont jamais été dépensés parce qu'on n'arrivait pas à recruter les préposés aux bénéficiaires en particulier. Bon, est arrivée la crise et à cause de la crise, s'est ajouté un autre 10 000 employés qui sont absentés, soit qui avaient la COVID-19 ou dans certains cas, dans certains cas, ils avaient peur d'attraper la COVID-19, commencent un petit peu à revenir. Là, on est rendu à 9 700 qui sont absents actuellement, mais il reste que quand même, là, il manquait 10 000 employés avant. On essayait de combler les postes, là, surtout avec des temps partiels, ce qui explique pourquoi on a la moitié des employés qui sont à temps partiel. Puis là, pour remplacer les 10 000 personnes absentes, ben on a utilisé deux moyens. D'abord, je contribue, donc des gens qui n'avaient pas nécessairement de formation, mais qui ont accepté de venir travailler dans nos CHSLD, puis les soldats de l'armée. D'ailleurs, j'ai parlé ce matin avec Justin Trudeau. J'ai demandé que les 1000 soldats restent jusqu'au 15 septembre, le temps, je vais vous en parler tantôt, de former des employés pour combler les postes qui sont manquants. Donc, le deuxième, si je peux appeler ça comme ça, 10 000 employés qui nous manquent, a été comblé temporairement par des gens pas formés. Et là, on espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ces 10 000 employés-là vont revenir au travail. Mais il nous reste le premier 10 000, le 10 000 qui manque depuis plusieurs années dans les CHSLD. Là, le problème reste entier. Donc, on va, dans les prochains jours, lancer une grosse campagne pour convaincre 10 000 personnes de s'inscrire à une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, ça va se donner dans plusieurs dizaines de centres de formation professionnelle, en partie aussi sur le terrain. Donc, ce qu'on vise, là, c'est de recruter 10 000 personnes qui accepteraient de venir suivre une formation qui va durer 3 mois. Donc, ça veut dire de la mi-juin à la mi-septembre. Les personnes qui vont s'engager vont être payées pendant la formation, donc vont être payées comme des aides
de
service. Ça, c'est un salaire de 21 de l'heure, 760 par semaine. Et s'ils réussissent leur cours, après 3 mois, bien là, ils vont gagner le nouveau salaire qu'on donne soit via les primes temporaires ou qu'on offre dans les conventions collectives, qui commence à 26 de l'heure, donc 940 par semaine, 49 000 par année. Donc, je pense que c'est une offre qui est intéressante. C'est une offre aussi, bien sûr, puis avec raison, beaucoup de gens disent que ce n'est pas juste une question de salaire, de chiffres, d'argent. C'est quand même un travail valorisant, venir s'occuper des personnes vulnérables dans nos CHSLD. Il faut comprendre aussi qu'on va mettre en place un nouveau contexte. D'abord, en ajoutant 10 000 personnes qui n'étaient pas là, ça veut dire qu'on va avoir plus de monde pour faire le travail. Donc, ça va être plus agréable avec les 10 000 personnes additionnelles. Deuxièmement, on veut aussi regarder, puis on en a déjà parlé, pour rénover les CHSLD, pour construire des maisons des aînés qui soient plus belles, plus grandes. Et je le disais déjà à quelques reprises à ceux qui me posaient la question, on n'exclut pas, si 10 000 employés de plus, ce n'est pas suffisant, d'augmenter encore davantage les ratios. On ne l'exclut pas, mais on va convenir là qu'on a tout un défi devant nous autres de trouver 10 000 personnes qui acceptent de venir travailler à temps plein. Donc, 10 000 personnes de plus dans nos CHSLD. Donc, on va s'attaquer à ça avant d'inclure quoi que ce soit dans les conventions collectives. Là, il faut quand même être capable de livrer la marchandise. Mais je veux être très clair là, que j'exclus pas d'aller à plus que 10 000 si c'est nécessaire. Mais on veut offrir à tous les employés à l'avenir dans les CHSLD des conditions de travail agréables, d'avoir du temps pour parler avec les résidents, peut-être aussi changer le nom, hein, préposé aux bénéficiaires, on n'aime pas ça, bénéficiaires, là, qui s'occupent des vraies personnes, des vrais résidents, avoir le temps, parce que c'est aussi important, ce travail-là, de contact avec les résidents, que la partie qui est plus médicale. Donc, tout le monde, là, préparez-vous. Dans les prochains jours, on va vous donner les adresses, là, des 40, 50 centres de formation professionnelle qui vont accepter des applications. Ça va commencer donc autour de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. Donc, mais quand même, une belle expérience. Bon, vous l'avez vu, on a eu un rapport de l'armée. Pas beaucoup de surprises. Évidemment, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas difficile, mais je retiens surtout deux choses du rapport et des rapports, là, parce qu'ils ont fait un petit rapport sur chaque CHSLD où ils ont été impliqués. Deux choses. Bon, évidemment, le fait qu'il nous manque 10 000 personnes, ça fait qu'on a beaucoup de monde qui sont à temps partiel, ça fait que c'est très difficile de s'assurer que ça soit pas les mêmes employés qui soient dans les zones chaudes et dans les zones froides à l'intérieur d'un même CHSLD. C'est ce qu'on vise, puis je pense qu'on a réussi justement avec les gens de Je contribue puis les soldats qui sont arrivés à ce que ça soit très limité. Mais il reste que ce problème-là, on le connaît et puis vous le connaissez. Donc, c'est important d'ajouter du personnel, puis quand il y a une zone chaude, bien, que ce soit du personnel spécifique qui aille dans zone chaude. L'autre problème qui a été relevé, puis ça aussi, on s'y attendait, c'est l'utilisation du matériel de protection individuelle. Donc, comment et quand on porte un masque, une blouse, des gants, quand est-ce qu'on change d'équipement quand on passe d'un résident à l'autre. Même les militaires ont dû s'adapter, puis malheureusement, certains ont été infectés. Mais c'est sûr qu'en ayant 10 000 personnes qui n'ont pas eu de formation, qui ne sont pas qualifiés pour la plupart. Il y en avait quelques-uns qui c'était des gens à la retraite qui sont revenus. Bien, c'est plus difficile d'appliquer les directives sur quand et comment porter le matériel de protection individuelle. Donc, je dirais, ce sont les deux remarques là qui reviennent. On n'a pas eu des remarques comme dans le rapport d'hier en Ontario. Bon, il y a un autre sujet que je veux parler, c'est les comparaisons avec les autres endroits dans le monde sur le nombre de décès au Québec. D'abord, je pense qu'il faut être très prudent. On l'a vu, puis le docteur Arruda a fait la démonstration. Au Québec, toutes les personnes qui sont décédées de la COVID-19 ont été déclarées, parce que quand on regarde le surplus de décès par rapport à la même période l'année passée, on voit que c'est à peu près le même chiffre. Donc, ça veut dire que chez nous, ça a été déclaré complètement. Bon, vous avez vu des articles un peu partout dans le monde où on dit à certains endroits, ben il y a la moitié des décès qui n'ont pas été déclarés. Et quand on va avoir tous les chiffres sur les comparaisons des décès en 2020 par rapport à 2019-2018, on va être capable à ce moment-là de faire des comparaisons. Donc ça, c'est la première chose où il faut être prudent. La deuxième chose où il faut être prudent, c'est que le virus a frappé beaucoup plus dans les grandes villes du nord-est de l'Amérique du Nord et dans les grandes villes en Europe. Puis quand on regarde les grandes villes du nord-est nord-américain et la plupart des grandes villes en Europe, on a un nombre de décès par million d'habitants qui est comparable au Québec, même dans certains cas, pire qu'au Québec. Donc, je parle entre autres de villes comme New York, Boston, Chicago, Détroit, Philadelphie, Washington, D.C., Londres, Paris, Madrid. Si vous allez voir les chiffres dans ces villes-là, c'est tout comparable ou pire à ce qu'on a vécu à Montréal. Il y a une exception. Une exception, c'est Toronto. Toronto a beaucoup moins de décès par million d'habitants de déclarés. D'ailleurs, j'ai lancé un défi au docteur Arruda, puis j'en lance un aussi à l'INSPQ, m'expliquer comment se fait-il que Toronto est dans une situation, parce que c'est une grande ville, évidemment, Toronto, complètement différente des autres grandes villes dans l'Amérique du Nord, là, dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, je vous lance ce défi-là. Pourquoi? Là? Donc, on va se fier aux spécialistes, aux gens qui connaissent ça. Je termine avec mes remerciements du jour. C'est les personnes de Je Contribue puis les militaires. Je veux leur dire merci. Une chance qu'on vous a. J'en profite pour passer mon petit message. J'aimerais que les militaires restent jusqu'à la mi-septembre. Je sais, je n'ai parlé avec M. Trudeau, c'est pas facile. Ils ont d'autres missions. Mais je peux vous dire que tous les commentaires qu'on a eus sur les militaires, là, c'est qu'il y a eu une collaboration exceptionnelle entre le personnel de la santé et les militaires dans les CHSLD. Donc, on aimerait bien ça les garder jusqu'à la mi-septembre, le temps que les personnes qu'on va former cet été soient disponibles pour les remplacer. Bon, dernière chose aussi que je vous dis, je sais que beaucoup de gens ont hâte qu'on aille plus vite dans le déconfinement. Je pense, entre autres, à tous les rassemblements, donc que ce soit les réunions familiales ou entre amis à l'intérieur. Là, on a permis de le faire à l'extérieur. Je sais qu'il y a des gens qui se disent « Quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir à 5, à 10 entre amis? » Je sais aussi que dans le monde artistique, il y a des gens qui ont hâte qu'on annonce une date pour les spectacles, quitte à ce qu'il y ait un tiers ou un demi des spectateurs. Je vous dis tout de suite, ça ne sera pas demain matin. Puis, la condition pour passer à cette prochaine étape, c'est vraiment qu'on contrôle la propagation du virus. Donc, qu'on réussisse ce qu'on a annoncé. Donc, les rassemblements extérieurs de 10 personnes maximum, la réouverture des commerces depuis lundi à Montréal, faut pas que ça amène plus de cas dans les hôpitaux. Donc, il faut réussir cette étape-là pour espérer ensuite retourner à des rassemblements intérieurs. Bien sûr, avec des consignes, ça ne reviendra pas complètement comme avant, mais c'est important de respecter les consignes si on veut revenir à une vie un peu plus normale. Donc, je compte sur tous les Québécois là, pour réussir l'étape des commerces puis des rassemblements extérieurs pour qu'on puisse ensuite se parler de rassemblement intérieur.
C'est drôle, hein, parce que juste avant qu'on cède l'antenne au premier ministre, on disait ça peut être une expérience exceptionnelle de travailler dans un CHSLD. Puis là, il dit, oui. Écoutez, il vient répéter essentiellement la même chose, puis on va offrir une formation rapide cet été voilà. Pour que vous puissiez le devenir.
Formation rémunérée, donc, pour les gens qui vont la suivre. On veut convaincre, là, Bernard, 10 000 personnes à s'inscrire à cette formation-là qui va durer 3 mois, formation qui va commencer à la mi-juin. Donc, les gens seront payés aussi 21 $ de l'heure pendant qu'ils vont étudier, 760 $ par semaine. Et par la suite, vous avez accès, là, au nouveau salaire, si vous voulez, aux nouvelles conditions des préposés aux bénéficiaires, 26 $ de l'heure, 940 par semaine, autour de 49 000 $ par année avec fonds de pension et tout ça. Et il a dit aussi, dans un nouveau contexte là, qu'on espère plus agréable, oui. Justement parce qu'il y aura davantage de personnes, on n'exclut pas non plus du côté de Québec d'embaucher davantage que 10 000 personnes si jamais on se rend compte qu'on a besoin de plus. Mais bon, on commence par ça, c'est déjà un bon défi. Il faut dire, là, il manque au total, là, si on fait le compte, là, autour de 20 000 personnes dans le réseau de la santé. Là. C'est énorme.
Puis tu sais, les 10 000 absents, là, il y en a 300 qui sont revenus, mais il en manque encore 9 700 qui sont absentés. Là, des gens qui travaillaient dans les CHSLD puis qui sont partis, il y en a juste 300 qui sont revenus.
C'est ça. Alors, c'est pour ça que ça fonctionne pas. D'ailleurs, le rapport des Forces armées canadiennes traitait là-dessus, c'est-à-dire le manque de personnel. Et François Legault l'a dit, écoutez, ce rapport-là n'était pas une surprise pour nous. On sait, c'est le défi depuis des années, d'ailleurs, hein, faut le dire.
Question.
Oui, bonjour à vous tous. Monsieur le Premier ministre, comment décrivez-vous l'utilité du rapport des Forces armées canadiennes pour votre gouvernement, mais également pour le gouvernement fédéral à qui, j'imagine, il était d'abord destiné? Puis, est-ce que les Forces armées canadiennes ont outrepassé leur mandat en amassant des informations et en faisant rapport au gouvernement fédéral?
Bien, je pense que c'est dans l'habitude de l'armée canadienne, quand ils ont un mandat, que ce soit pour des inondations ou quoi que ce soit, qu'il y ait un rapport à la fin. Bon, on n'est pas à la fin, là, mais en tout cas, moi, je l'espère qu'on n'est pas à la fin, puis c'est ce que j'ai bien dit à quelques reprises. J'ai au moins 3-4 fois ce matin à Justin Trudeau. On aurait pu apprendre des choses. Ce que j'ai vu hier, c'est que Doug Ford a appris des choses avec ces rapports-là. Bon, nous, ce qu'on apprend, c'est qu'il manque de personnel, que parce que le personnel n'est pas formé, ils ont de la difficulté avec l'équipement individuel. Donc, moi, j'ai pas vraiment appris quelque chose dans ces rapports-là. Mais c'est une façon de faire là, de l'armée canadienne.
Le coup de main des Forces armées canadiennes est fortement apprécié par votre gouvernement, puisque vous leur demandez de rester jusqu'au 15 septembre prochain. Est-ce que Justin Trudeau vous a dit non? Puis aussi, vous parlez beaucoup de fierté depuis votre élection. C'est pas un peu gênant de devoir compter sur l'armée canadienne pour maintenir à flot le réseau de CHSLD québécois?
Bien, écoutez, moi, je pense que c'est un jugement qu'on porte sur plusieurs années où on a négligé les CHSLD. De dire qu'on est rentré dans cette crise-là, puis depuis 5 ans, 10 ans, il nous manque 10 000 employés dans les CHSLD, ça, c'est gênant. Évidemment, c'est pas facile de trouver 10 000 personnes disciplinées qui acceptent sur le champ de venir travailler dans un contexte pas facile. Donc, c'est pour ça que je suis content que sur les 10 000, là, il y en ait 1 000, que ce soit des militaires. Donc, moi, je pense que c'est gênant pour toute la société québécoise qu'on en soit rendu là, d'avoir besoin de 10 000 personnes. On aurait dû le faire bien avant, comme je l'ai dit, puis je le répète. Nous, on a fait une première étape en augmentant les budgets des CHSLD, mais il aurait fallu augmenter plus rapidement les salaires pour combler ces 10 000 postes-là, puis ne pas avoir besoin des militaires.
Si on poursuit avec Hugo Lavallée, Radio-Canada.
Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je veux revenir justement à cet aspect du rapport concernant le port de l'équipement de sécurité. Vous mentionnez qu'il y a une absence de formation de nouveaux employés, mais quand même, le rapport est un peu plus sévère que ça. On parle de mauvaise discipline d'employés ne respectant pas les protocoles mis en place. On évoque un manque d'assiduité, problème de leadership des gestionnaires, problème de priorisation. Donc, est-ce que c'est normal que des employés ne sachent pas utiliser de l'équipement de protection puis que l'armée doive se substituer aux gestionnaires pour établir l'organisation des soins, de la formation? Ça semble quand même indiquer un problème de leadership important.
Bien, écoutez, il faut tenir compte du contexte. 10 000 nouveaux employés qu'on a recrutés, puis ça inclut même les militaires, là, des gens qui n'avaient pas la formation, qui n'avaient pas l'expérience. Donc, c'est plus difficile d'appliquer des directives quand on a autant d'employés qui sont nouveaux puis sans formation. Puis malheureusement, bien, il y a eu des employés puis des soldats aussi qui ont été infectés.
Monsieur le Premier ministre, oui. En complément, il faut se dire là, que même pour les employés qui étaient déjà là, qui ont des connaissances là, au niveau de la prévention des infections, mais avec la COVID-19, les CHSLD sont des milieux de vie. Mais il faut le dire, ils sont devenus des milieux de soins. Alors, ça a tout changé et ça a été très exigeant. Et les équipements de protection, ça demande, oui, une formation, mais aussi une formation continue. Ça demande même qu'on soit deux quand on les met puis qu'on les enlève. Alors, c'est pour ça, encore une fois, comment c'est important d'avoir davantage de personnel. Et on a tout un programme qu'on a mis en branle, parce que depuis le début de la pandémie, il y a même la Croix-Rouge qui nous a aidés au niveau de la prévention des infections. On met en branle tout un programme, là, depuis quelques semaines, là, qui va faire le tour de tous les CHSLD. Le rapport est instructif là, sur 10 CHSLD, mais tous les CHSLD, on a déjà débuté une formation costaude sur la prévention des infections. Et ça va être en continu. Et on va avoir davantage de gens aussi qui s'occupent de la prévention des infections dans les établissements. Ça, c'est fondamental pour maintenant et la suite des choses.
Oui, on a entendu le premier ministre Justin Trudeau un peu plus tôt cette semaine évoquer l'idée qu'on offre aux employés 10 jours de congé maladie payés pour que les gens se sentent pas obligés d'aller travailler s'ils ont des symptômes. Monsieur Trudeau aussi ce matin était questionné sur une éventuelle implication du gouvernement fédéral dans les soins à apporter aux personnes âgées. Il n'y a pas fermé de porte. Quel rôle est-ce que vous voyez le gouvernement fédéral jouer à plus long terme, là, au-delà de la présence temporaire de l'armée, dans les soins aux personnes âgées? si tant est que vous voyez un rôle pour le gouvernement fédéral?
Bien, j'ai dit à Justin Trudeau ce matin, d'abord, concernant les congés de maladie, qu'il y a une réaction très négative du côté des entreprises. Bon, évidemment, il y a une question là où c'est pas clair qui va payer, mais il y a aussi une question d'organisation du travail dans un contexte où déjà les entreprises sont dans une situation difficile. Je comprends l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer qu'un employé qui a des symptômes, ben, se sente pas obligé d'aller au travail pour gagner sa paye. Donc, je comprends l'objectif. Mais on va sûrement en débattre, c'est ce que M. Trudeau me dit demain soir, jeudi soir, donc à notre rencontre. Pour ce qui est du financement des soins de longue durée, ben, je l'ai dit à plusieurs reprises à M. Trudeau, moi ce que je lui suggère, c'est d'augmenter les transferts fédéraux en santé. Je le rappelle, quand on a commencé, c'était 50 % du financement des coûts de la santé qui venait du fédéral. On est rendu à 23 % seulement des coûts de la santé qui viennent du fédéral. Donc, c'est un fardeau très lourd sur les budgets des provinces parce que les budgets en santé ont augmenté plus rapidement que l'inflation à peu près dans toutes les provinces depuis les 10 dernières années. Donc, c'est malheureux, là, puis en plus, on veut couper de 5 à 3 % la croissance alors qu'avec le vieillissement, avec les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies, il y a une augmentation pour garder les mêmes services là, d'au moins 5 %. Donc, on fait des pressions importantes, tous les premiers ministres de toutes les provinces, pour que si vraiment le gouvernement fédéral puis M. Trudeau veulent aider au financement des soins de longue durée, mais qui augmentent les transferts fédéraux en santé aux provinces.
Pour Olivier Bossé, Le Soleil.
Vous dites le plan de formation de 3 mois, vous cherchez 10 000 personnes, c'est fantastique, mais ça a tout pris pour en trouver 10 000. Ça ne pourra pas être ces 10 000-là parce que ces 10 000-là vont déjà être au travail. Où est-ce que vous allez pêcher ces personnes-là?
Ça pourrait en partie être... en tout cas, il y a une partie qui pourrait être dans les 10 000. Nous, on est inquiets un peu là, que ces gens-là quittent trop vite parce qu'il y en a qui avaient un autre emploi. Bon, il y en a qui ont perdu leur autre emploi. Mais ça va faire partie des personnes à qui on va offrir, de dire, on va vous payer pendant votre formation, pendant 3 mois. Il y a une partie, là, on est en train, avec Jean-François Roberge, de regarder quel pourcentage va être fait dans les centres de formation professionnelle puis quelle partie va être faite dans les CHSLD. Donc, ça pourrait en partie être ces personnes-là. Mais effectivement, c'est un énorme défi, là. J'ai demandé à mes gens de mettre en place une grosse campagne de promotion. Je pense que de dire aussi, on vous donne 760 $ par semaine pendant les 3 mois de la formation, puis ensuite 940 $ par semaine pour commencer. Ça, c'est le bas de l'échelle, donc 49 000 par année. Je pense que c'est une bonne proposition. Maintenant, notre défi aussi, c'est d'améliorer l'image des CHSLD, de dire avec les 10 000 personnes de plus, bien, le travail va être plus agréable. Puis on reconnaît là, qu'il y a des CHSLD qui sont vétustes, qui doivent être embellis, remplacés par des maisons des aînés dans certains cas, rénovés de façon importante dans d'autres cas. Donc, c'est ça le défi qu'on a, là, effectivement, de recruter dans un contexte qui n'est pas facile.
OK, on a l'essentiel. De toute façon, on a toujours Louis Lacroix là qui suit ça pour nous. Et puis, s'il y a quelque chose de gros qui se passe, vous pouvez être certain qu'on va revenir en onde avec l'information. Bon, évidemment, Luc Lavoie, tu écoutes ça toujours avec ton oreille attentive, mais aussi critique. Qu'est-ce que tu retiens?
Bien, évidemment que la grande affaire du jour, c'est qu'il annonce une très vaste campagne de recrutement et de promotion. Il va ouvrir des dizaines de centres de formation. On va connaître les adresses, les endroits précis dans les prochains jours pour essayer de former 10 000 personnes. Il met le paquet là, pendant une formation spéciale accélérée de 3 mois.
Payé, bien payé. Hein?
Bien payé. Pendant la formation, ils sont payés 21 $ de l'heure. À partir du moment où ils ont terminé leur formation, ils vont entrer dans un CHSLD ou une maison de retraite à 26 $ de l'heure, non CHSLD, j'ai dit, bon. Alors, c'est ça la grosse
affaire. 50 000 par année.
50 000 $ par année. Écoute, Il essaie de trouver toutes sortes d'arguments pour convaincre les gens de revenir, ceux qui se sont absentés. Mais évidemment, il arrête. C'est son problème. Le problème au Québec, c'est le manque de personnel dans ces endroits-là.
Si tu me permets, Luc, je t'interromps là, dans ton envolée. Écrivez-moi au 98985 si ça vous tente de vous inscrire à cette formation cet été, cette formation pour devenir préposé. Je suis juste curieux parce que j'ai quelqu'un déjà qui m'écrit, Luc, comment est-ce qu'on applique pour un poste en CHSLD? Je suis curieux de savoir, juste des fois, là, on fait des espèces de sondages instantanés, là. 98985, écrivez-moi juste pour me dire, oui, ça pourrait m'intéresser de prendre le stage 3 mois, d'aller travailler comme préposé à 50 000 $ par année. Juste comme ça, là. Je referme la parenthèse, Luc, je m'excuse de t'avoir interrompu.
Non, mais je t'en prie. Je veux dire, il a tenu à... Tu sais, on lui a posé la question, êtes-vous gêné que c'est les soldats qui font la job?
Oui.
Puis il a fini par dire, c'est gênant d'en être rendu là, mais il a au préalable expliqué, ça faisait 10 ans, dit-il, qu'on manquait, qu'il y avait 10 000 employés manquants depuis 10 ans. Et là, t'en as une dizaine de milliers, pas loin, qui sont partis, soit parce que ils avaient contracté le virus, soit parce qu'ils avaient peur parce qu'il n'y avait pas d'équipement, et patati et patata. Alors, le défi demeure entier. Et dans ce sens-là, M. Legault, on voit qu'il était assez soulagé du rapport des forces armées, parce que, au fond, ce que dit le rapport des forces armées, c'est la même chose que M. Legault. On n'a pas découvert de conneries comme en Ontario, de crimes, de coquerelles, de ci, de ça, mais je pense que le discours demeure cohérent. Ce rapport-là vient très bien servir M. Legault. Il y a d'ailleurs un journaliste qui a posé une étrange question, je me rappelais plus c'est lequel, en disant, est-ce que l'armée n'a pas outrepassé son mandat en faisant des rapports? J'ai trouvé ça pas fort comme question, parce qu'effectivement, il faut savoir que dans n'importe quel déploiement, n'importe quel aussi petit soit-il, il y a toujours un rapport à la chaîne de commandement, puis ça va jusqu'au conseil privé à Ottawa. Tout le temps. Et c'est normal qu'il en soit ainsi, d'ailleurs. On veut pas leur... Tu sais, nos soldats, là, ils répondent à des élus, toujours. Faut jamais l'oublier.
Là, vous êtes plusieurs à me dire, oui, ça me tente. Moi, ma blonde, on va le faire. Quelqu'un d'autre me dit, écoute bien ça, Luc, c'est très intéressant. Il dit, moi, je suis infirmier, je viens de commencer, je suis à 21 $50. Je pense que je vais arrêter d'être infirmier, puis je vais aller me former comme préposé, ça va être plus payant. Ça, c'est tout le dilemme du gouvernement là dans la négociation avec le secteur public présentement. Il veut augmenter à 25 $, à peu près 25-26 $ les préposés. Puis évidemment, un des problèmes avec lequel il est pris, c'est s'il augmente les préposés, ça risque d'avoir un effet, une espèce d'effet de cascade sur d'autres formations. Mais je referme cette parenthèse-là. Tous ceux et celles qui m'écrivaient, là, pour me dire vous êtes intéressé, réécrivez-moi avec votre nom, ça peut être juste votre prénom, puis un numéro de téléphone où on pourrait vous rejoindre. OK? Je veux savoir si vous êtes sérieux, parce qu'on va peut-être vous rappeler, puis on va peut-être vous mettre en onde si vous êtes sérieux, pour que vous m'expliquiez pourquoi ça vous tenterait, vous, de devenir préposé aux bénéficiaires. Fait que c'est là que je vais peut-être voir votre niveau d'engagement. Juste votre prénom, pas besoin de votre nom de famille. Votre prénom, votre numéro de téléphone où je pourrais vous rejoindre si jamais on décide de le faire. Bon, OK. Ben Luc, écoute, moi, je vais te dire une chose. Au moins, il se démène. Tu sens qu'il cherche une solution. Il n'attend pas après une commission d'enquête. Il dit, garde, une formation canon, rapide, cet été, 3 mois, j'ai besoin de 10 000 personnes. En fait, j'ai besoin de 20 000 personnes dans les fêtes, là. Mais je veux combler mon espèce de 10 000 manquants, là, depuis des années. Et puis, tu sais, je vais vous payer pour vous former, puis vous allez commencer à temps plein quelque part cet automne. Au moins, ils sont dans la recherche pragmatique de solutions.
Je dirais que je suis très souvent habité du doute métaphysique, là. J'ai hâte de voir si ça va marcher.
Voilà.
J'ai hâte de voir si ça va prendre 2 semaines au lieu de quelques jours.
Très bien.
Je souhaite ardemment que ça marche.
OK. Luc, on se reparle un peu plus tard. Merci.
Tantôt.
OK. Là, je vous le dis, Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, doit faire un point de presse à 15h30 cet après-midi. Elle doit annoncer la réouverture des campings. Je suis un petit peu surpris que le premier ministre n'en ait pas parlé, mais honnêtement, ça a tellement circulé dans les médias, je pense qu'il n'a pas senti le besoin de le faire. Alors, normalement, après-midi, 15h30, on va connaître la date de réouverture des campings, puis on va en parler après la pause.